paroi du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en Blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voie d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils.
Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique.
Parce que le blues, ça se vit.
Sound.
adores les fromages d'ici? Bien, écoute la musique d'ici. Écoute local
avec Cheese 94.3.
Faut pas travailler trop, trop fort.
l'émission Question de savoir, l'émission de l'Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures. Donc, si vous êtes à la maîtrise ou au doctorat à l'Université Laval, c'est votre émission. Aujourd'hui, on débute un peu plus tôt. C'est dans le cadre, en fait, de la campagne Le respect, rien de moins. Qu'est-ce que c'est cette campagne-là? Ben, en fait, ça le dit, ça part du respect, donc du vivre ensemble sur le campus. Donc, pour tout ce qui entoure les questions de harcèlement psychologique. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs invités avec nous. Donc, tout d'abord, ben, on a Aurèle Fanny Deutcha Nguelieu, qui est étudiante au doctorat en relations industrielles et vice-présidente aux études et affaires académiques à l'Allier. Donc, tu es également une étudiante internationale. Donc, bonjour Fanny.
Bonjour Lydia.
Est-ce que tu souhaites te présenter aux auditeurs et auditrices?
Mais merci. Merci pour l'occasion et merci pour cette belle émission qui est Le respect, rien de moins. Alors, moi, je suis Aurèle Fanny Deutcha Nguelieu. Je suis vice-présidente aux études et à la recherche à l'Allier. Je fais un doctorat en relations industrielles et mon thème de doctorat porte sur les parcours d'insertion à l'emploi des réfugiés qui sont sélectionnés dans des camps de réfugiés en Afrique et réinstallés ici au Québec. Donc, je fais beaucoup de terrain international. Et la plupart des hypothèses que nous posons dans les chaires de recherche dans lesquelles je travaille, c'est que les nouveaux arrivants et les populations locales vivent des transitions qui remettent en question la qualité de vie pour tous, l'inclusion et la reconnaissance mutuelle pour tous.
Super! Donc, un sujet vraiment intéressant, puis riche de connaissances, si je comprends bien, puis de connaissances humaines.
Effectivement.
Parfait. Donc, on a également invité Dominique Morin, qui est professeur au département de sociologie. Donc, bonjour Dominique.
Bonjour.
Donc, tu as également fait ton parcours à l'Université Laval en tant qu'étudiant.
Oui, en fait, un ancien étudiant de Laval, devenu professeur d'abord dans une autre université, puis je suis revenu à l'Université Laval. J'ai été directeur de département auparavant, directeur de programme. Mais aujourd'hui, en fait, je pense que j'ai été davantage invité parce que j'enseigne la pensée sociologique, puis donc pour éclaircir quelques notions autour de la civilité, du civisme, etc.
Oui, tout à fait. Je suis encore surprise de ne pas avoir de choc post-traumatique à avoir lu toutes les lectures proposées dans tes cours, qui sont extrêmement riches. Donc, si vous êtes étudiant en sociologie ou dans une discipline qui est connexe à la sociologie, je vous suggère grandement les cours de Dominique.
Merci.
Donc, quels sont tes sujets de prédilection?
Bon, écoutez, je fais de la sociologie de la famille, mais surtout l'étude de la vie de famille contemporaine dans la ville métropolitaine. Donc, c'est de la sociologie de la famille, mais qui est en même temps de la sociologie urbaine. Je m'intéresse au développement régional. J'étudie mon terrain d'études privilégié, c'est le Québec. Donc, je suis un sociologue généraliste, un peu touche à tout. Puis, dans la pensée sociologique, c'est surtout la tradition française de sociologie, mais qui a ses racines dans la tradition philosophique occidentale.
Donc, vraiment intéressant. On avait deux autres invités aujourd'hui à l'émission, mais bon, les conditions étant celles qu'elles sont à l'extérieur, j'imagine que tout le monde a remarqué la neige. Donc, elles sont prises ailleurs, n'ont pas pu se rendre sur le campus pour l'émission. Par contre, on a deux personnes très importantes également qui nous aident avec la technique aujourd'hui. Donc, Jérôme Lisotte, qui est attaché politique à l'Allier, et Serge Bonin, qui est directeur de la chaire publique Allier et Néo. Donc, merci d'être là, messieurs, pour nous aider avec la technique. Donc, cette année, il y a un thème qui a été retenu pour la campagne Le respect, rien de moins, et c'est celui du civisme. Souvent, bon, quand on pense au civisme, à la civilité, aux civilités, donc ça peut se dire aussi au pluriel, on comprend généralement que ça a à voir avec le vivre ensemble, mais lorsque vient le temps de se définir les différents concepts ou de marquer la différence entre ces derniers, bien, on cherche un peu nos idées. C'est en partie pour ça qu'on a invité Dominique pour démêler, en fait, tous ces concepts-là. Donc, Dominique, lorsqu'on parle de civisme et de civilité, de quoi on parle?
Bien, en fait, moi, je partirais du sens commun, puis donc les dictionnaires d'usage courant, comme le petit Robert, s'efforcent de baliser les usages du sens commun les plus courants. Donc, si on se réfère à cette référence universelle pour les francophones, si on va voir qu'est-ce qui est écrit à côté de civilité, bien, ce qu'on va voir, c'est qu'on va nous dire que c'est l'observation des convenances, des bonnes manières en usage dans un groupe social. Et une autre définition, c'est les démonstrations de politesse. Donc, puis quand on regarde les contraires, bien là, ça nous dit aussi qu'est-ce que les gens pensent comme n'étant pas des civilités. Donc là, on va parler de grossièreté, d'impolitesse, d'incivilité, le contraire, d'insolence, de rusticité ou encore d'injure. Donc, la notion, si on va aller plus loin, on pourrait la décomposer en trois dimensions. Donc, si vous êtes face à de la civilité, vous êtes dans une situation de contrôle et de conduite du corps, des expressions, des sentiments et des pensées. Donc, on n'est pas dans une pure spontanéité. Ensuite, c'est pour répondre à des attentes de respect de forme, des formes qui vont être arbitraires, qui vont être donc l'arbitraire d'un groupe, mais qui vont être vécues au sein de ce groupe-là comme des formes convenues. Donc, on n'est pas dans le naturel, on est vraiment dans l'historique. Puis enfin, c'est des normes auxquelles le groupe attache des valeurs, des normes, des manières, auxquelles le groupe attache des valeurs plus ou moins explicites. Donc là, je peux en énumérer une série. En Occident, on va associer le raffinement, le respect, l'égard circonstanciel. Donc, vous ne conduirez pas de la même façon selon que vous êtes dans une cérémonie avec un protocole ou que vous allez dans une église, ou etc. On va attacher aussi l'idée de la déférence envers certaines personnes qui ont certains statuts, la discrétion, l'harmonie, la bonne entente, l'hygiène, la propreté, la beauté, la décence. Donc, il y a toute une série de valeurs qui peuvent être attachées à des pratiques de civilité, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on forme par une éducation qui est très pratique, sans forcément communiquer toutes les valeurs et tout l'engagement dans les valeurs que ça implique. Et c'est une éducation de la personne qui va discipliner le corps et l'esprit à la maîtrise de manière de se présenter en public, d'être et d'agir, avec d'autres ou encore seul, mais toujours avec en tête qu'on vit en société. Donc, il y a des pratiques qu'on va faire que personne ne va voir, mais que quelqu'un qui est éduqué aux civilités va faire d'une certaine manière en se figurant que ça a une incidence pour la vie en société. Et donc, ça peut devenir un art ou des automatismes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se distinguer dans l'art des civilités, puis c'est souvent comme ça qu'on va déclarer que quelqu'un est un homme ou une femme distinguée. Et en même temps, bien, dans l'apprentissage, ça peut quasiment se faire comme des automatismes. Donc, figurez-vous que vous dites pardon à quelqu'un avant d'essayer de rentrer dans le métro, puis que ça tourne en mise en échec. C'est le genre de choses aussi qu'on peut voir dans les civilités. Civisme, pour moi, en tout cas, apparaît comme quelque chose de plus exigeant moralement. Donc, dans le dictionnaire, la définition est très courte. Dévouement du citoyen pour sa patrie. Si on dit citoyen et patrie, puis qu'on n'aime pas tellement la notion de patrie, on peut dire dévouement du citoyen pour sa communauté politique, dont les membres sont des échos en dignité et en droit. C'est généralement l'idée qu'on accroche à la citoyenneté. Puis donc, c'est une idée et une manière d'entrer, une manière d'être au monde qu'on peut transposer à la communauté ou à la cité universitaire, en se disant que dans une communauté ou cité universitaire, on se traite comme des égaux en dignité et en droit dans une vie commune. Et donc, le civisme va supposer un engagement solidaire des citoyens dans la réalisation d'un certain idéal de communauté. Là où ça s'impose comme un devoir, parce que c'est pas évident vu les relations entre individus. Donc, on parle de communautés où les individus sont pas tous dans l'interconnaissance, la parenté ou la familiarité, ce qui donne des rapports humains différents. Ils sont pas tous liés dans l'amour ou l'amitié les uns avec les autres. Donc, vous pouvez être dans le civisme sans forcément vous sentir très fortement lié affectivement. Ne sont pas que liés dans des rapports formels définis. Donc, on peut pas s'en tenir strictement au respect de règles. Considère vivre et devoir se conduire sous des normes communes entre égaux et devrait chérir ensemble des notions du juste, du bien, du beau, de l'utile pour la vie dans la communauté, pour que tout se passe bien, que ce soit harmonieux. Contraire, si on regarde les contraires, bien là, ça en dit peut-être un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme étant contraire au civisme? L'égoïsme nuisible à la communauté, l'indifférence aux problèmes de la communauté et de ses membres, la conduite déloyale envers la communauté ou ses membres, la corruption, l'abus de pouvoir, la violence contre les égaux, contre la communauté ou contre son bien, ne pas soutenir et défendre la communauté et ses membres contre ce qui leur est néfaste, donc ça demande un certain courage. Enfin, profiter d'inégalités de fait ou de l'exclusion qui compromettent la qualité d'égo dans la conduite des membres de la communauté, et donc le souci qu'on a à l'université d'assurer les conditions d'autonomie et de liberté de chacun dans les activités académiques et autres, renvoie à cette idée de civisme. Donc, tous ces manques de civisme peuvent se faire dans les habits ou sous les masques de la civilité, ce qui fait qu'on ne peut pas se dire là où il y a civilité, il y a forcément civisme. Et en même temps, plus loin dans la discussion, on verra qu'il y a aussi des engagements civiques qui ne correspondent pas nécessairement aux idées qu'on a de la civilité.
Donc, si je résume dans mes propres mots, finalement, la civilité, ça ne se pratique pas tout seul. C'est vraiment une performance sociale.
De... Et qui s'apprend, et qui se forme, et qui se dresse.
Parfait. Puis le civisme, ben, c'est davantage relié à la notion d'engagement pour le groupe social. Puis il y a une certaine question d'altruisme là-dedans, si je me trompe
pas. Oui, absolument. C'est un altruisme, en fait, qui est tout à la fois... Ben, la notion de citoyen appelle un respect de soi comme citoyen, mais également le respect des autres. Et le respect du fait que la citoyenneté ne peut pas se vivre hors d'une communauté. Donc, il y a trois objets d'altruisme, on pourrait dire, dans l'engagement civique.
Parfait. Puis, ça vient d'où, les civilités?
Ça vient d'où, les civilités? Donc, longue histoire que je vais essayer de raccourcir en plaçant des repères. La notion de civilitas va apparaître dans l'Antiquité romaine. Donc, elle pouvait signifier plusieurs choses. Ça pouvait signifier l'art de gouverner les citoyens. Ça pouvait signifier le fait de contrôler les mœurs collectives par l'action d'un gouvernant. Ça pouvait signifier le fait d'accéder à la civilisation. Et enfin, le droit du citoyen auquel on estimait en fait que le citoyen avait le droit de vivre dans la civilitas. Le lien entre civilitas et les bonnes manières va apparaître chez certains penseurs, notamment chez Cicéron, qui est généralement le plus cité pour faire ce parallèle. Donc, pour Cicéron, en fait, la grandeur du citoyen, en particulier du gouvernant, exigeait jusqu'au contrôle du corps, des sentiments et de la parole, sans lesquels la vertu, donc l'excellence, ne pouvait pas s'accomplir dans l'action. Donc, si vous n'étiez pas formé à bien agir, bien parler, bien vous conduire, votre excellence ne pourrait pas se traduire en action sur la collectivité. Plus encore, Cicéron recommandait la tempérance et la modération comme des manières d'être du citoyen et du gouvernant, la maîtrise des troubles de l'âme et le sens de la mesure pour le décorum de la vie politique. Donc, c'est de là que vient l'association entre l'idée plus moderne qu'on a des civilités et la notion antique de la civilitas. Mais dès l'Antiquité romaine, en fait, le spectacle de la politique montrait clairement aux citoyens que la civilitas n'exclut pas l'usage de la violence physique et psychologique, les inégalités contraignantes, la corruption, les complots, le mensonge et les abus de pouvoir nuisibles à la perpétuation de ce qu'on va penser dans des républiques comme étant le civisme. Le terme, comme on l'emploie généralement, de manière, disons, bonne, honnête et optimiste, va apparaître à la Renaissance avec Erasme, donc un intellectuel qui est d'une grande autorité dans les années 1500, qu'on va présenter comme le prince des humanistes, donc d'humanistes chrétiens, qui publie et va réimprimer dans plusieurs villes de la civilité puérile, qui est donc un premier traité largement diffusé de civilité. Et donc, en rupture avec l'enseignement du code de la courtoisie qui ne s'étendait pas au-delà de la noblesse, donc c'était une tradition orale ou qui se communiquait par des manuscrits, son traité de civilité s'adresse non seulement à son élève, le prince Henri de Bourgogne, mais à tous ses contemporains qui pourraient être destinés à recevoir le même enseignement de civilité. Et donc, il va le proposer aux parents et aux institutions scolaires de s'occuper de l'éducation de leurs enfants très tôt pour en faire des êtres qui pourraient se conduire librement en société. Et donc, ça va passer à travers un code détaillé de la décence et de l'indécence du maintien du corps, de la manière de se vêtir, des comportements dans une église, des règles des repas et des manières de se tenir à table, des rencontres, de la participation à des jeux et même du coucher. Et donc, à travers ce code-là, Erasme va véhiculer l'idée nouvelle que l'éducation de l'enfant aux civilités forme l'honnête homme, en façonnant son âme à travers un dressage du corps, de la pensée, de l'expression des sentiments, de manière à ce qu'il puisse conduire, donc je le disais tout à l'heure, librement en société. C'est un idéal pédagogique qui va combiner la politesse et la courtoisie que connaissait déjà la noblesse, au souci chrétien de soi, des autres, ainsi qu'au respect des institutions et des lois écrites et non écrites. Et donc, ce code-là, donc de la civilité puérile, va ouvrir un horizon pour tous les gens qui vont aller vers cette éducation-là dans l'esprit d'Erasme. Ça ouvre un horizon de sécurité et de mobilité sociale ascendante dans une société de rang qui est très inégalitaire et encore très violente. Donc, l'idée d'Erasme, c'est que vous ne choisissez pas votre père, donc vous ne choisissez pas votre famille, vous ne choisissez pas si vous êtes bien né, mais par l'éducation, on peut vous amener à vous conduire d'une façon qui vous donnera les respects, les dignités qui sont nécessaires à l'ascension sociale et qui sont nécessaires aussi à éviter de se faire convier en duel parce qu'on a fait un geste déplacé qui a vexé quelqu'un, qui l'a déshonoré. Et donc, l'ouvrage va aussi soumettre tous les enfants et par extension tous les citoyens du monde, au regard des anges et au jugement de Dieu. Donc, il faut garder en tête que la Renaissance, l'humanisme de la Renaissance, c'est quand même quelque chose de chrétien. Et si les civilités s'étendent jusque dans les espaces où on n'est absolument pas exposé en société, mais que c'est important, c'est parce que Dieu, ben rien n'y échappe dans les comportements des hommes. Et donc, les civilités vont avoir une extension absolue, étant donné qu'ultimement, c'est pas juste à ses concitoyens qu'il faut plaire, c'est plus largement à Dieu. Et donc, son ouvrage va être enseigné dans les institutions scolaires, va devenir la matrice de l'enseignement explicite des civilités, à partir desquelles, ensuite, on va mettre à jour des ouvrages de formation aux civilités.
Donc, ben, fort heureusement, aujourd'hui, lorsqu'on manque de convenance, disons-le, on est plus susceptible de se retrouver en duel avec des épées. Par contre, les duels se passent beaucoup avec des mots, ce qui nous amène à la première pause musicale avec La rue qui est à nous, les mots.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête
pour les charlatans,
des jeux de mots
pour les artistes,
des mots d'amour
pour les amants,
des mots d'amour
pour les copieurs,
des mots pour mots
pour les cafeteurs,
des mots savants
pour les emmerdeurs,
des mobilettes
pour les voleurs.
Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Des mots rues pour les poissonniers, et des mots jetés
pour les pas bien beaux,
des mots perdus
pour les paumés,
des mots en l'air
pour les oiseaux,
des mots de passe
pour les méfiants,
et des mots clés
pour les prisonniers,
des mots pour rire
pour les enfants,
des mots tabous
pour le taboulé.
Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Des mots croisés
pour les retraités,
et des petits mots
pour les béguins,
des mots d'ordre
pour les ordonnés,
des mots fléchés
pour les indiens, des momies
pour les pyramides,
des demi-mots
pour les demi-portions,
des mots courants
pour les rapides,
et le mot de la fin
pour la chanson.
On est toujours en live sur les ondes de Facebook, donc n'hésitez pas à aller nous voir. Vous allez pouvoir voir les charmants minois de nos invités. Donc, parlant d'invités, oui, entre Jason. Donc, on a fait un appel à la participation pour combler les espaces. Donc, avant la pause musicale, on a parlé de quelque chose de très théorique. Donc, la différence entre le civisme, entre les civilités. On va maintenant parler de choses un peu plus concrètes pour le vivre ensemble, en fait, sur le campus. On va parler des enjeux et des défis de la diversité. Donc, le campus de l'Université Laval, elle est animée par une grande diversité. On va y retrouver des étudiants et des étudiantes québécoises, mais une forte proportion aussi d'étudiants et d'étudiantes qui proviennent de l'international. Certains d'entre elles ou eux sont parents. D'autres vivent dans une situation d'un handicap temporaire ou permanente. Puis toutes ces personnes-là, à leur manière, dans le fond, selon leur expérience, vont être stigmatisées en raison de leur expression parfois de genre ou de leur orientation sexuelle lorsqu'ils font partie de la diversité sexuelle et de genre. Certains vont passer la partie la majeure partie de leur temps sur le campus, puis d'autres ben, vont étudier à temps partiel, puis se présenteront pratiquement jamais. D'ailleurs, on en profite pour leur dire bonjour à distance. Vous êtes tout aussi importants et importantes que ceux qu'on croise tous les jours. Donc, lorsqu'on décide d'étudier à l'étranger, Fanny, j'imagine que c'est une grande décision de vie, puis que c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Donc, quels sont les principaux défis là, que rencontrent les étudiants et étudiantes internationales sur le campus de l'université?
Merci, Lydia, pour la question. Et là, tu soulèves un enjeu qui est crucial, l'enjeu de l'intégration des diversités. Et je pense qu'on l'a vu récemment aussi avec les questionnements qu'ont soulevé le programme de l'expérience québécoise et comment des étudiants étrangers, des travailleurs se sont mobilisés pour faire part de leur quotidien, qui n'est pas toujours évident tous les jours. Les enjeux que rencontrent les étudiants étrangers, il y a des enjeux culturels, des enjeux linguistiques, des enjeux liés à la discrimination, des enjeux scolaires, de réussite scolaire. Et pour les parcourir un à un assez rapidement, je dirais que l'un des premiers enjeux, c'est l'enjeu culturel. Alors, étant moi-même étudiante étrangère et toujours en cheminement pour l'intégration, parce que je ne pense pas que ce soit un processus qui se termine complètement, mais bon, en tout cas, moi, je le vois comme un processus. Là. Alors, c'est ça, c'est justement, on arrive avec sa propre culture et puis on est dans un environnement totalement différent. C'est d'essayer justement de s'intégrer et la plupart des étudiants, c'est souvent la difficulté à se faire des amis. La difficulté à se faire des amis, la difficulté à se faire accepter par l'autre dans sa différence et parfois la difficulté aussi à accepter les différences des autres. Donc au niveau culturel, c'est ça, c'est l'enjeu, c'est vraiment de tisser des liens. Puis à ce niveau-là, il y a des enjeux linguistiques, de langue, parce qu'il y a beaucoup de... Là, on parle d'étudiants internationaux, il y en a qui ne parlent pas le français ou l'anglais quand ils sont dans les provinces anglophones. Et on dit le défi d'apprendre un métier, le défi d'apprendre la langue quand on ne sait pas parler, on ne sait pas parler français. Il y en a qui ne savent pas parler. Alors c'est ça. Donc c'est ça, c'est tout un enjeu également. C'est étudier à l'université tout en ne maîtrisant pas la langue à un certain niveau. Et alors, il y a des défis financiers. Là, je n'ai pas hiérarchisé les défis ni les enjeux, mais s'il fallait les hiérarchiser, on y reviendra, mais je les cite comme ça pour le moment. Dans les défis financiers, il faut savoir que les étudiants internationaux payent très cher la scolarité. Encore, il faut savoir qu'il y a étudiants internationaux et étudiants internationaux. Il y a une stratification à l'intérieur de ce qu'on peut considérer comme étudiants internationaux. Un étudiant international français n'est pas tout à fait pareil qu'un étudiant international qui vient d'Afrique, encore quelle Afrique, qui vient d'Afrique centrale ou d'Afrique du Nord, etc. Donc, les niveaux de précarisation, on va dire, ne sont pas les mêmes. Alors, pour un étudiant étranger, par exemple, un étudiant international qui viendrait peut-être des zones de l'Afrique, qui n'ont pas d'entente avec des universités particulières ici, des ententes sur les bourses, des ententes sur les exemptions, aux frais de scolarité, etc., le premier enjeu, c'est les finances. Il faut donc savoir qu'un étudiant étranger paye environ, qui n'a pas d'entente, un étudiant étranger qui viendrait, par exemple, des pays où il n'y a pas d'entente avec les universités, il paierait environ 9 000 $ par session pour un bac. 9 000 $ par session pour un bac, donc vous calculez à peu près, on va aller dans les 18 000 $ à peu près l'année de frais de scolarité pour le bac. Et quand vous accumulez par 3 ans, vous avez le calcul que ça fait. Ça diminue un petit peu à la maîtrise et au doctorat, mais les coûts sont tout aussi bien importants. Alors, comment est-ce qu'ils financent leur scolarité? Il faut savoir que c'est des étudiants qui financent leur scolarité avec des économies personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable de savoir que des gens ont vendu leur maison, ont vendu tout ce qu'ils avaient, des héritages, etc., pour pouvoir venir étudier, se payer le luxe d'étudier. Et donc, c'est souvent des familles qui se mettent ensemble et qui font des efforts énormes. Alors, cas, ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, tout ça, finalement, c'est jamais assez. Parce qu'un étudiant étranger, même en ayant vendu tout ce qu'il avait, en payant la scolarité, il ne lui reste plus grand-chose à vivre. C'est souvent des étudiants qui vont occuper des emplois à l'extérieur du campus. Et justement, pour pouvoir combler les écarts dans l'offre de scolarité et vivre. Et donc ça, ça a un impact. Là, ça m'amène sur les enjeux de réussite scolaire. Ça a un impact sur la réussite scolaire parce que c'est des étudiants, justement, qui travaillent beaucoup trop et qui n'ont pas le temps de se concentrer sur leurs études. Et donc, on va parler pour terminer des questions de discrimination, parce qu'effectivement, on le rencontre parfois. On dit que la discrimination n'existe plus, mais ce n'est pas vrai. Elle porte simplement d'autres visages. S'intégrer pour un étudiant étranger, que ce soit sur le marché de l'emploi. Là encore, on l'a vu avec la réforme du programme d'expérience québécoise. On a dit aux étudiants étrangers, en fait, finalement, vous avez payé pour les frais de scolarité, mais vous n'êtes plus les bienvenus sur le marché de l'emploi, et sachant qu'ils font la plupart des études de maîtrise et de doctorat. Et donc, c'est ça. Ça, c'est des problèmes. On peut parler de discrimination à l'emploi, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais c'est des enjeux. Puis, si vous me permettez une autre minute, là, j'ai pas rapidement. Voilà, j'ai pas parcouru tous les enjeux, mais c'est très important au niveau des associations, l'intégration en milieu étudiant. Et au niveau des universités. C'est des étudiants qu'on ne rencontre pas souvent dans les associations, qui sont parfois complètement en marge et qui vivent un isolement crucial. Puis l'enjeu, c'est de savoir comment briser cet isolement.
Merci. Merci Fanny pour cette réponse très complète. Donc j'en profite pour faire le lien avec d'autres réalités, en fait, de la diversité. On accueille en studio Laurent-Francis Ngoumou, qui est étudiant international en travail social ici à l'Université au doctorat et qui est également co-président de l'ADSGUL. Donc bonjour Laurent-Francis.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous dire très rapidement, en fait, ce qu'est l'ADSGUL?
L'ASGUL, c'est l'Association pour la diversité sexuelle et de genre de l'Université Laval, anciennement appelée GGUL, l'ancien groupe gay de l'Université Laval. Pour plus d'inclusion, on a changé de nom en 2018. C'est devenu Association pour la diversité sexuelle et de genre de l'Université Laval. Parce que dans la diversité sexuelle et de genre, il y a tous les genres. Donc on ne se limite pas qu'aux personnes LGBTQ. Il faut comprendre aujourd'hui que de manière scientifique, même les personnes hétérosexuelles font partie de la diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est pour cela qu'on a créé, on a changé ce nom pour être plus inclusif, au fait.
Ce qui est quelque chose de très positif, en fait, puis qui favorise le travail ensemble et le vivre ensemble. Donc, l'ADSGUL comprend aussi, en fait, le comité d'action trans. On va parler davantage de ce comité-là parce qu'il y a des enjeux très spécifiques que rencontrent les étudiants et les étudiantes qui sont non-binaires ou en transition de genre ou qui ont complété une transition de genre. Donc, si tu pouvais nous dire, en fait... Bon, depuis quelques années déjà, là, l'université parle de mettre en place des toilettes universelles ou non-genrées pour les personnes trans et non-binaires. Il y a eu de la mobilisation étudiante, en fait, de ce côté-là. Pourquoi c'est un enjeu qui est important, en fait?
Merci déjà pour la question. Elle est vraiment primordiale et importante. Et c'est un enjeu primordial à l'ère de la mondialisation et au Québec actuellement. C'est vrai, si on s'en tient au discours de la rectrice en 2017, où elle a parlé, par exemple, de l'introduction à l'Université Laval des toilettes non genrées au sein de l'Université Laval. Mais on a constaté, ayant été président en 2018, on a constaté qu'effectivement, ces toilettes n'étaient pas dans tous les secteurs de l'université. On a eu des témoignages des étudiantes en transition qui sont retrouvées... une fille qui veut devenir garçon et elle, au moment de la transition, elle se retrouve dans les toilettes des filles parce qu'elle n'a pas encore fini sa transition. Les filles se mettent à crier dans les toilettes. Et là, c'est vraiment choquant. Et aussi, on s'est dit, par exemple, si je suis à Desjardins et si je suis une personne trans, je vais aller aux toilettes. Où est-ce que je vais aller aux toilettes à Desjardins? Je ne sais pas, alors je vais aller aux toilettes à Desjardins.
Parce qu'il n'y a pas de possibilité, en fait, d'utiliser une toilette réservée pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou de toilettes individuelles.
Exactement. Et le même cas se répercute au niveau du PEPS. Du PEPS, on voit les toilettes pour familles, on voit les toilettes pour femmes, les toilettes pour hommes. Donc, on est resté dans l'hétéronormativité. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore adaptés à la société, au fait. les lois sont là, la société évolue, mais ça manque d'évolution encore. Et c'est pour cela qu'on pense nécessaire, par exemple, le 28 novembre, on fait une table ronde pour évaluer les enjeux et les défis pour confronter l'administration. Et parce que la chance qu'on a, c'est qu'on a une administration qui a une oreille attentive. C'est pour cela que le 28 novembre, on fait une table ronde pour discuter ensemble avec l'administration, parce qu'ensemble, nous allons trouver des solutions et voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et aussi, il faut relever que par rapport aux personnes trans, l'Université Laval est encore en retard. Par exemple, par rapport à l'Université de Montréal, où par exemple, on ne retrouve plus sur des listes hommes-femmes. À l'université, on retrouve hommes-femmes, X, autres. C'est vraiment important. Et il y a ce manquement encore au niveau de l'Université Laval et aussi au niveau de certains cours dispensés. Par exemple, les cours de biologie, les cours de statistique, les cours d'anatomie, où les cours restent hétéronormatifs. Et pourtant, et ça fait en sorte que lorsque vous donnez champ de cours à des personnes trans qui sont, ou bien non-binaires qui sont en présence de ces cours-là, ça crée des frustrations, ça crée des discriminations, parce que les cours sont restés hétéronormatifs, non pas tenus compte du changement de la société. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes avec des personnes trans. Mais il faut que ces personnes souffrent vraiment et il faut travailler ensemble pour enfin arriver à des solutions vraiment porteuses.
Donc, ce que je retiens, en fait, des apports de Fanny et de Laurent Francis, c'est qu'il y a toute une question de culture, de langue et de conception, en fait, de comment on fonctionne en société qui influence notre vivre ensemble et notre inclusion de la diversité. Donc, tout ça, évidemment, est lié à des... peut mener à des situations d'isolement, d'exclusion... et pourquoi pas d'ostracisme social. Donc, on va aller avec une deuxième pause musicale.
Fuck.
Je suis celui qui fonce.
suis celui qui frappe dans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dans la vie à grand coup d'amour.
Donc, re-bienvenue en onde avec nous. On est toujours avec l'émission spéciale Le respect, rien de moins. Donc, on a parlé avec nos invités avant la pause, Fanny, Laurent, Francis, en fait, des enjeux et défis présents sur le campus de l'Université Laval pour toutes les personnes qui font partie de la diversité. C'est-à-dire, en fait, tout le monde sur le campus. Donc, maintenant, on va plus orienter la discussion autour de la reconnaissance puis de l'inclusion de la diversité à l'université. Donc, un peu se projeter dans le futur, maintenant qu'on a fait un constat très rapide, disons-le, de comment ça se passe sur le campus. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux questions entourant la diversité sociale puis l'inclusion de la diversité, on réalise rapidement là, que la reconnaissance sociale, c'est un défi qui est complexe et paradoxal. Pour reconnaître l'individu dans toute sa spécificité ou pour reconnaître, en fait, l'individualité de la personne, on va plus souvent faire usage de la catégorisation sociale. Or, quand on catégorise, on crée également de la distinction sociale parce qu'on met en lumière la différence plutôt que ce qui rassemble, ce qui nous rassemble. Donc, la catégorisation sociale, et ça va bien pour un mardi matin, ça crée également de l'altérité. Donc, Dominique, de quoi est constitué le gouffre qui va séparer les notions de civisme qui ont été présentées plus tôt dans l'émission et les civilités qui sont échangées entre individus?
Bien, les civilités, en fait, si on s'en tient strictement au respect des formes, bien, elles peuvent se pratiquer sans aucun engagement vraiment sérieux dans le respect, la promotion et la réalisation d'une autre idée de la communauté universitaire dont on en a parlé tout à l'heure, mm-hmm. qui doit être attentive à ses membres. Donc, à la limite, bon, tout à l'heure, je faisais la blague de quelqu'un à qui on dit pardon avant d'entrer dans le métro pour lui faire une mise en échec. De la même façon, on peut saluer, afficher de la cordialité, du respect tout en se balançant littéralement des gens à côté. Puis c'est particulièrement... Donc, il y a des conditions de stress où chacun est à ses affaires, où on est dans des logiques de compétition, voire de concurrence, qui disposent particulièrement à s'en tenir à des civilités, puisque c'est moins prenant. Donc, si les civilités nous réservent de certains risques ou d'une certaine manière, parce qu'en fait, même quand on s'avance éventuellement à discuter d'un problème, essayer de clarifier une situation, on ne se fait pas forcément des amis, même si on le fait avec civilité, bien, le civisme va souvent vous exposer et être quelque chose qui est demandant, qui va vous demander du temps, de l'énergie, qui va de la préoccupation. Et donc, l'institution de la citoyenneté qui est sous-jacente à l'esprit du civisme, bien, elle va vous demander, en fait, de considérer, ne serait-ce qu'abstraitement, qu'il y a une identité des membres de la communauté dans leur diversité. Donc, au-delà des différences, des particularités, il faut se dire, non, il y a une égale dignité qui prime et c'est cette identité de membre de la communauté universitaire qui doit être mise de l'avant. Après ça, essayer de voir une unité au-delà des divisions d'intérêts et de sous-groupes où on entend toutes sortes de choses sur des gens très loin de nous qu'on catégorise et qu'on classifie en se figurant qu'on ne fait pas de mal à personne parce que ces gens-là ne l'entendent pas. Mais donc... Ce type de conduite-là, on devrait essayer de s'en abstenir et s'élever contre ça au nom d'une unité qu'on essaie de préserver dans la communauté universitaire. Ensuite, ça prend un sens aigu d'une nécessité vitale pour la communauté, d'une coopération qui doit primer sur les conflits internes. Donc, des fois, on va avoir même des conflits internes sur la manière de bien faire les choses pour améliorer la situation. Mais il faut essayer de prendre sur soi puis se dire, bien là, l'autre qui est en face, que je peux voir comme un adversaire, voire comme un ennemi, on est dans une vie en communauté où on va essayer de coopérer ensemble autant que possible pour arriver à une solution qui sera bonne pour tous. Puis enfin, il y a le respect mutuel des libertés, des droits et d'une autonomie qui va demander des fois de ouvrir la question d'inégalité. Donc tantôt, on parlait de la question des difficultés économiques que peuvent avoir des étudiants étrangers. Bien, quand on reçoit un étudiant étranger qui demande à se faire diriger, souvent c'est fait dans une représentation de soi où on n'a pas forcément envie de discuter de ça avec les professeurs qu'on va rencontrer, mais le professeur a une responsabilité d'amener ces questions-là sur la table, puis d'être honnête aussi sur la mesure de ses moyens, puis de l'aide qui peut être apportée. Sinon, on peut s'engager dans des quiproquos, voir des situations qui deviennent intenables, parce qu'on en est resté à un respect, une harmonie de façade, mais qui, en fait, nous a engagés dans des situations qui posent problème.
Donc, ça m'amène en fait à demander à Fanny puis à Laurent. Francis, on va rêver ensemble si vous le voulez bien. Dans la chanson qui a joué, en fait, c'était la chanson de Jerry Boulet, Toujours vivant. Ça demande une certaine force, en fait, quand on fait partie de la diversité pour faire reconnaître nos droits parce qu'ils ne sont pas toujours reconnus. Il disait dans la chanson qui jamais ne renonce au plaisir d'être libre. Donc, pouvoir être soi dans toutes ces facettes, c'est la notion même, je pense, de la liberté. Dominique, tu parlais également de cette notion-là, la notion de droit et la notion d'autonomie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout, bien, ça m'intéresse évidemment ces thèmes-là, mais de préserver l'unité. Donc, Fanny, si tu avais 3 actions concrètes là, à poser pour améliorer l'inclusion de la diversité sur le campus de l'Université Laval, qu'est-ce que ce serait rapidement?
Alors, pour mettre en mesure un plan d'action, il faut toujours considérer 2 aspects. Il y a un aspect qui est plus systémique, puis un autre qui va être individuel. Alors, ça interpelle les actions à la fois de l'université, les actions de l'étudiant, donc de l'université, des associations et de l'étudiant lui-même. Alors, pour l'université, c'est effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure on a une politique qui permet justement une politique sur l'inclusion des diversités à l'Université de Laval, mais je trouve que ce serait vraiment l'occasion justement de mettre des initiatives en marche pour comprendre la diversité et former les enseignants aussi à comprendre la diversité, parce que même dans l'encadrement, c'est souvent compliqué. Moi qui suis aux études, on couvre les 2e et 3e cycles, puis les enjeux liés au plan d'encadrement, à l'encadrement de l'étudiant au cycle supérieur, c'est souvent aussi des enjeux liés à la diversité. C'est comprendre que l'autre vient d'ailleurs et permettre à l'autre aussi de s'adapter rapidement au fonctionnement. Alors ça, c'est des mesures que peuvent prendre l'université. Puis je salue les mesures que prennent le Bureau de la vie étrangère qui accompagne l'étudiant, parfois de l'aéroport jusqu'à tout le parcours universitaire. Ça, c'est une bonne chose également. Mais aussi, je lance un appel aussi aux associations dans lesquelles les étudiants ne sont pas très représentatifs. Le principe de la représentativité, pour moi, est très important au sein des associations étudiantes. On ne voit pas beaucoup les étudiants internationaux, parfois parce qu'ils sont parfois dans les sous-sols, comme disait un étudiant dernièrement, dans les McDo, à travailler, etc., mais aussi parce qu'ils sont dans une sorte d'isolement où ils ne savent pas s'ils peuvent frapper les portes ou pas. Fait que c'est vraiment d'avoir des mesures qui encouragent la participation, parce qu'une fois que tu es dans l'association, tu comprends bien le fonctionnement de l'université, des structures, etc., et tu peux t'intégrer plus facilement. Puis c'est aussi un appel à tous les étudiants internationaux aussi également, c'est effectivement de ne pas baisser les bras, de garder son rêve, de venir à la rencontre des autres cultures et de s'enrichir mutuellement.
Laurent, Francis, de ton côté, les 3 actions primordiales à poser, disons, sur le campus, ce serait quoi?
la question est tellement pertinente et je trouve que la question est pertinente et je trouve 3 actions, ce serait pour moi, un peu insuffisant. Mais tout de même, je réponds à vos questions. Mais avant de répondre à vos questions, il est primordial, on parlait de respect tout à l'heure, je vais analyser la problématique sur l'œil du travail social. Parce que le travail social, par définition, c'est la justice sociale, l'équité. Donc, remettre les gens au même pied d'égalité. En parlant de respect, moi, j'ai dit, l'Université de Laval ne peut pas faire une campagne de sensibilisation en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans les pays d'Amérique latine, dépenser des milliards d'argent. Parce que lorsqu'il faut la campagne, par exemple, l'année dernière, j'ai eu à aider certaines personnes de mon département. La campagne, c'était, oui, vous allez venir à l'Université Laval, vous avez fait des meilleures études, vous avez fini vos études dans de meilleures conditions. Et là, présentement, lorsque les étudiants arrivent, donc, est-ce que les services, ils payent beaucoup d'argent? Ils partent, ils dépensent des milliards, des millions, ils arrivent là. Est-ce que le service qui a, est-ce que le service adéquat à cette clientèle-là? Comme par exemple, l'année dernière, l'Université de Laval avait 5 000 étudiants environ, 5 000 étudiants étrangers environ. Et est-ce qu'on a des psychologues spécialisés pour ces personnes immigrantes? Parce que j'ai vu, quelqu'un m'a dit, oui, j'ai fait 2 semaines interculturelles de psychologie. Non, ce sont des êtres humains. Il faut faire 8 ans d'études pour ces problématiques, pour ces personnes particulières. On ne peut pas avoir 5 000 étudiants pour un psychologue interculturel qui a fait une formation de 2 semaines. Si ça, c'est, ça, c'est le, ça, c'est pas de respect, ça. On parlait de respect tout à l'heure. Qu'est-ce que les professeurs même, généralement, lorsque les étudiants posent des thématiques en classe, lorsqu'on on divise les étudiants par groupe de travail, vous allez voir, certains vont se regrouper entre eux, les écrivains vont rester entre eux. Mais pourquoi est-ce que les anciens ne se remettent pas en cause? Il dit, par respect pour leur argent, au moins, il faut remettre en question comment on fonctionne. L'autre question, c'est la question de... Est-ce que l'université a posé la question un jour? On a accueilli, par exemple, 5 000 étudiants étrangers cette année. Est-ce que ces 5 000 étudiants ont fini leurs études? On se pose pas la question, est-ce qu'ils ont fini leurs études? Où en est-il? Parce que moi, j'ai des cas, par exemple, des personnes LGBT qui sont arrivées. Ils ont annoncé, par exemple, à leurs parents qu'ils étaient LGBT. Leurs parents ont arrêté de payer leurs études. Et l'université n'a rien fait. Et les personnes ne savaient pas qu'ils étaient partis. Ils ont perdu leur statut d'étudiant. Ils sont partis peut-être aux États-Unis pour faire de la clandestinité. La question est que est-ce que l'université fait le rapport sur les étudiants qu'ils accueillent? Est-ce qu'ils ont fini leur parcours? Est-ce qu'ils ont eu leur intégration? Les trois suggestions que j'apporte. Premièrement, il faut que l'université se remette en cause. Il faut que l'université se remette en cause. Ça, c'est la première chose. Parce qu'on se remet en cause, on reconnaît ses torts. On peut faire mieux. Mais si on ne se remet jamais en cause, on ne peut pas faire ce tort. Et deuxièmement aussi, les services d'aide aux étudiants. Le service d'aide aux étudiants, si vous n'avez pas une certaine clientèle qui ne vient pas, moi je vois souvent au Cameroun, lorsqu'on fait les campagnes de vaccination, l'hôpital, on n'attend pas les mamans, ils ne vont pas venir à l'hôpital. Non. Les médecins arrivent dans les maisons. On pose la question, est-ce que l'enfant s'est vacciné? Est-ce que l'enfant s'est vacciné? Oui, justement. Et parce qu'ici, les étudiants arrivent, ils ne savent pas qu'ils ont, ils reçoivent tellement des tonnes de mails, ils ne savent pas quel est le mail. Le service d'aide, en ce moment, devait se déployer, poser la question, est-ce que tu sais que le service d'aide existe? C'est le service qui doit se déployer parce qu'il paye pour ça. Donc, je me dis, ça, c'est la deuxième cause. Trouver des stratégies nouvelles à s'adapter. Et quatrièmement, et troisièmement, à la fin, ce n'est pas parce que... personne n'a été victime de racisme, que le racisme n'existe pas. Il faut trouver des moyens pour lutter contre le racisme. On dit, oh, le racisme n'existe pas, et pourtant il existe, il est présent là. Donc c'est ça les 3 points que j'allais dire.
Donc, une question assez complexe en soi qui suscite de grandes attentes, beaucoup d'attentes. Donc, je retiens qu'il faut travailler à différents niveaux et sur plusieurs aspects pour arriver à faire du campus un lieu plus inclusif. Ça passe vite, hein, une émission. Donc, on avait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on aurait pu y passer la journée. Donc, je vous rappelle, en fait, qu'il y a toujours la formation obligatoire sur les violences à caractère sexuel qui est disponible sur mon portail. Si ce n'est pas déjà complété, prenez quelques minutes pour le faire. Avec un bon sac de chips ou de popcorn, ça passe super bien. Et ce soir, il y a également le lancement de Néo. Ça se passe à 17h au Foualier. C'est le nouveau projet de vulgarisation scientifique de la chaire publique alliée. Donc, manquez pas ça. Si vous êtes fan de robots, c'est la place où être ce soir. Donc, je remercie tous nos invités. Dominique Morin, merci. Professeur au département de sociologie. Laurent-Francis Ngoumou, qui est co-président de la DUGUL et étudiant en travail social au 3e cycle. Aurèle Fanny Deutchan-Gueulieu, qui est impliquée à l'Allier pour le poste aux études et affaires académiques. Sans oublier, évidemment, Jérôme Lisotte et Serge Bonin, qui se sont occupés de la technique de l'émission. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Partagez le podcast lorsqu'il sera disponible. Bonne semaine.
Merci beaucoup.
Quel marathon.
les deux yeux.